bienvenue à tous au 344e épisode du podcast Hypercroissance. Mon nom est Antoine Gagné. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter mon entretien avec Mélissa Harvey, présidente et fondatrice de l'entreprise Zora Cosmétiques. Zora Cosmétiques, c'est pas compliqué. Ils sont en affaires depuis bientôt 20 ans. Et même après autant d'années en affaires, ils continuent de croître de 40% année après année. C'est pour dire. Et l'entretien qu'on a avec Mélissa aujourd'hui est intéressant car comparativement à beaucoup d'entreprises qu'on a pu voir dans les dernières années qui ont grandi grâce aux médias sociaux, grâce à l'avènement du web, eh bien, elle le fait de manière différente. Elle le fait grâce au porte-à-porte. Un point de vente à la fois, elle a été capable de trouver des distributeurs pour ses produits. Et à travers les années, avec l'effort qu'elle a été capable de mettre à travers différents points de vente, différents pays, différentes provinces, son entreprise a été capable de prendre énormément de parts de marché. On parle de cette belle histoire de croissance et on parle également de la genèse de l'organisation qui est partie d'un voyage que Mélissa a fait au Maroc au début des années 2000. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse à l'épisode. Et également, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou encore sur YouTube pour être notifié de tous les épisodes qui sortent le lundi et le jeudi. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode du podcast Hypercroissance. Mélissa Harvey, vous êtes la présidente et fondatrice de l'entreprise Zora Biocosmétiques, un leader canadien dans les produits bioéquitables haut de gamme. L'entreprise que vous avez lancée en 2005 continue d'évoluer de manière très rapide en accusant un taux de croissance de plus de 40% année après année et ce encore en 2024. En plus d'avoir une organisation pérenne, vous aidez 5 000 à 7 000 femmes berbères chaque année en leur offrant un salaire équitable et en les aidant dans leur propre développement. Mélissa Harvey, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci Antoine, c'est gentil de nous avoir invités.
Et peut-être Mélissa, avant qu'on discute de la belle histoire de Zora, ça va bientôt faire 20 ans que vous êtes en affaires exceptionnelles, tout ça. Est-ce que tu pourrais peut-être bien expliquer à notre audience ce que vous faites au quotidien, ce qui vous distingue un petit peu dans votre catégorie?
Ben en fait, il y a 20 ans, on a ouvert un créneau qui n'existait pas, le créneau des biocosmétiques haut de gamme. Puis en plus de ça, moi, je voulais que ça soit bio, écolo, équitable, environnemental, protéger notre planète. Et il n'y en avait pas. Tellement que quand on a lancé Zora, les pharmacies ne savaient pas où nous positionner. Et là, maintenant, je te dirais qu'on a comme ouvert le marché, puis on a semé depuis ce temps des petits champignons un peu partout sur notre passage, puis on en est très content. Mais c'était vraiment une belle histoire de Zora à ce moment-là.
Ouais. Une catégorie qui n'existait pas et c'est vous qui l'avez créée un peu, là.
Oui, ben on est fiers de l'avoir créée. Puis je te dirais que maintenant, après 20 ans, on a quand même une longueur d'avance sur le marché, étant donné que l'expertise de créer des bio-cosmétiques haut de gamme qui vont aller se comparer au marché des grandes marques de ce monde, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'on a une belle popularité actuellement sur le marché international.
Mais bon, si on regarde un peu en arrière, tu parlais 20 ans, ça fait un bon bout de temps maintenant que vous êtes en affaires. Donc, vous en avez vu, vous avez été capable d'avoir une belle évolution à travers les années. Et je pense que tout ça a commencé, corrige-moi si je me trompe, Mélissa, avec un voyage au Maroc au début des années 2000. Je pense que tu es tombé en amour avec le pays, tu as fait beaucoup de découvertes là-bas qui t'ont amené à vouloir lancer tout ça par la suite. Peut-être que tu peux nous ramener à cette genèse et expliquer un petit peu à l'audience comment tout ça s'est lancé.
Mais en fait, j'étudiais au HEC et puis je voulais aller faire ma maîtrise en commerce équitable parce qu'à cette époque-là, j'avais un café bio-écolo sur la rue Beaubien à Montréal. Puis j'ai toujours su que le commerce équitable, c'était ma passion depuis que je suis toute petite. Donc, ma grand-mère, ma mère, c'est nos valeurs profondes. Puis au HEC, ben veut pas, le commerce équitable, là, 23 ans maintenant. C'était un petit peu des coopératives, des OSBL. Donc, c'était pas vraiment quelque chose qui était lucratif pour eux autres. Puis ils croyaient pas vraiment à ça. Donc, je leur ai dit, ben écoutez, je vais aller faire ma thèse. Puis à ce moment-là, Somme Québec a ouvert des postes à l'international. Donc, j'ai postulé. Et comme j'avais déjà un café bio, écolo, équitable, ils m'ont dit, on t'a sélectionné puis tu vas aller au Maroc. Là, l'histoire a commencé là. Donc, moi, je pars au Maroc. Et là, je découvre les coopératives d'huile d'argan. Et à ce moment-là, les femmes avaient besoin de sous parce qu'elles allaient se faire expulser de leur terrain. Donc, ça, c'est vraiment... Et là, je me suis dit, mais comment je pourrais faire les filles pour vous aider? Puis ils m'ont dit, ben Mélissa, peux-tu nous acheter toute notre cargaison d'huile, là? Ben, j'ai dit, que je vais faire avec ça? Ben, tu vas en vendre? Là, je dis, ben oui, je vais vendre ça au Canada. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un créneau où l'huile d'argan n'existait pas à ce moment-là. Puis j'ai commencé à vendre des petites huiles au marché Jean Talon. Et en un week-end, j'ai tout vendu mes huiles d'argan. Donc oh, wow. Là, et ce week-end-là, quand je vendais les huiles d'argan, il y a une chimiste qui a passé, puis elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je dis, au Maroc, on s'en met dans les cheveux, on cuisine avec l'huile d'argan, on en met sur les ongles, les vergetures, les cicatrices. C'est vraiment bon pour les peaux déshydratées. C'est une huile qui est pas allergène. Donc, tous ceux et celles qui sont allergiques aux noix peuvent l'utiliser parce que c'est un fruit. Mais elle m'a dit, oui, mais il faut que tu fasses des biocosmétiques parce que tu sais qu'il y a aucune huile qui pénètre l'épiderme. Et là, j'ai fait non, je ne savais pas. Et elle me dit, viens me voir lundi, je vais t'expliquer comment ça marche des biocosmétiques, des cosmétiques à cette époque-là, parce que ça n'existait pas les biocosmétiques. Puis le lundi, je suis allée la rencontrer, puis elle me dit, ben écoute, si tu veux vraiment aider les femmes berbères, je pense que si tu portes ta gamme de cosmétiques, tu vas pouvoir vraiment plus importer d'huile d'argan puis aider les femmes comme tu veux. Puis moi, ça me touche ta cause. Fait que je vais embarquer là-dedans puis tu vas me payer quand tu auras vendu ton premier pot. Parce que lancer des cosmétiques, c'est environ un demi-million hein, de dollars en développement. Puis comme moi, j'arrivais de l'Afrique en sac à dos à 20 ans, j'avais pas 5 $ dans mon compte en banque. Donc, j'ai vraiment apprécié l'aide que cette biochimiste-là, avec laquelle je travaille encore d'ailleurs, on a vraiment une relation mentor, d'amour. C'est vraiment fantastique. Mais c'est comme ça qu'est née Zora Biocosmétique. En fait, c'est je savais pas, je voulais pas me lancer dans les cosmétiques. C'est le de vouloir aider des femmes à s'autonomiser elles-mêmes, mais surtout scolariser leur enfant, parce que là-bas, c'est, je te dirais qu'environ 56% des femmes sont analphabètes. La femme, elle n'a pas la popularité comme nous ici au Québec. Donc, malheureusement, c'est difficile pour elle de se trouver du boulot, un travail. Quand tu es une petite fille, c'est prouvé que si tu vas au moins jusqu'au primaire 3, ben, tu as des chances de t'en sortir dans la vie. Donc, moi, juste pour pouvoir les aider. Puis quand j'ai vu que c'était vraiment une vraie coopérative d'entraide, puis que le soir, les femmes allaient se scolariser pour pouvoir, elles, être autonomes financièrement et pouvoir aider leurs enfants, ben, ça m'a vraiment touchée. Fait que, dans le fait, le départ, c'était vraiment pour aider les femmes. Vraiment pour ça. Je savais pas que après 20 ans, Zora allait pouvoir survivre. Mais en passant, Zora, ça, c'est le fun, là. Je vais te le dire. Tout le monde dit, pourquoi tu appelais ça Zora? Mais parce que quand j'étais là-bas, les femmes, ils voulaient pas m'appeler Mélissa. Ils m'appelaient Zora. Parce que Zora, ça veut dire éclatante, ça veut dire DR, ça veut dire fleur sauvage. Puis quand je suis arrivée ici au Québec, on cherchait un nom d'entreprise, puis je me suis dit, bon, si on veut qu'un jour ça soit exportable à l'international, comment qu'on pourrait appeler ça? Là, on s'est dit, bon, des noms. Puis à un moment donné, je disais, on va appeler ça Zora. Puis là, vu que c'est un nom de déesse, tous nos premiers produits au départ avaient tous des noms de déesse. Donc, Zari, Xia, Stella, c'était tous des noms comme ça avec une connotation des ingrédients qu'on avait mis à l'intérieur du petit pot. Donc, on avait vraiment mis une histoire de cœur et ça a perduré là, dans le temps. Là, je te dirais que ça fait peut-être 5 ans qu'on a arrêté de mettre des noms de DS parce que quand j'ai vendu en Turquie, il n'y avait pas de X en Turquie, donc il n'était pas capable de prononcer Xia.
Oh, wow!
Comme c'est ça l'histoire à la base du nom Zora Biocosmétique. Ouais.
Et bon, au-delà de tes belles rencontres que tu fais au Maroc, tes belles rencontres que tu fais avec ta partenaire, la personne avec qui tu travailles toujours, je pense que ça a fonctionné super rapidement. Tu nous parlais que tu as été capable de vendre tout ça au marché Jean Talon, mais également, je crois que le premier mois, vous faites quasiment 25 000 $ de vente. Est-ce que ça t'a surpris tout ça? Est-ce que tu t'attendais à une réponse comme ça du marché?
Non, vraiment pas. Non, parce que quand on a parti ça, à l'époque, être une femme entrepreneur, c'était difficile, vraiment. Il n'y a pas une banque qui voulait me prêter de l'argent. Donc, j'avais un petit 4,5 sur la rue Jarry, là, petit, là, je te dis, c'était même pas 650 pieds carrés. Donc, le premier mois, on avait 2 employés dans la cuisine, on se pilait ses pieds, puis là, 25 000, le mois d'après, 50 000, puis là, ça montait, puis ça montait, puis ça montait, puis Je me cherchais des locaux parce que là, le 600 pieds carrés et demi, c'était pas le fun, tu sais. Puis quand tu lances une entreprise, tu travailles souvent de 7 heures le matin à minuit le soir. Parce que là, tu as tes slogans à développer, t'as ton créneau, ton si. Puis moi, je partais dans ma voiture avec les ingrédients parce que ma biochimiste, elle m'avait dit, Mélissa, là, tu vas pas donner tes recettes là, parce que là, ça a été long à développer. Fait que là, tu vas aller toi-même dans les laboratoires pour être sûr qu'on va pas se faire copier. Puis effectivement, c'est à cause de ça qu'après ça, j'ai lancé mon propre laboratoire parce que tout le monde essayait de copier Zora parce qu'on avait tellement un succès extraordinaire que tout le monde se disait, mais coudonc, qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur dans leur produit. Puis il y avait aussi une nouvelle façon de faire les choses que l'industrie ne faisait pas. Donc, c'est ça. Fait que Zora a eu une croissance. Un, parce que le marché avait besoin d'avoir des biocosmétiques. Ça n'existait pas. Deux, ben la qualité, la pénétration. Tu sais, parce que dans les produits cosmétiques, avant, c'était tout, mettons, du beurre de karité ou du cacao. Tu sais, c'était pas aussi fancy au niveau de la texture. Fait qu'on a vraiment développé des textures extraordinaires qui pénètrent assez rapidement, qui ne laissent pas la peau huileuse ou graisseuse. Donc ça, c'est encore rare dans l'industrie. Là, c'est pour ça qu'on fonctionne bien encore. Ouais. Et bon, as-tu répondu à ta question, moi, là, Antoine?
Ah ben écoute, j'adore quand ça déraille un peu, parce que c'est ça la beauté des histoires d'affaires, c'est que les choses avancent, mais des fois, il faut comprendre comment tout ça s'est déroulé. C'est ça que l'audience veut savoir. Elle veut savoir les anecdotes. Et parlons peut-être un petit peu de cette commercialisation, parce que je trouve que c'est excessivement fascinant. Tu vends aussi vite, 25 000, 50 000. Et bon, on se ramène en arrière. Il n'y a pas de médias sociaux à ce moment-là. Il n'y a pas de présence en ligne pour se faire découvrir. Comment on s'y prenait pour faire en sorte que nos produits se fassent découvrir?
Moi, je me présentais dans tous les magasins, dans toutes les pharmacies. Je remplissais ma voiture de présentoir puis de produits cosmétiques puis je livrais la journée même. Fait que si la chef cosméticienne, elle me disait « Ah oui, mais je suis intéressée », bon, ben ce sera pas bien long, j'arrive dans ma voiture puis je t'amène ta boîte. Fait que je remplissais j'ai ouvert le commerce du Québec comme ça. Fait qu'aussitôt que j'avais 45 nouveaux magasins, j'embauchais une représentante. Fait que là, je partais sur la route, j'ouvrais encore 45 nouveaux magasins, j'embauchais ma deuxième représentante. C'est comme ça qu'on a construit Zora, mais c'est un, j'allais dans les laboratoires, je livrais moi-même les produits, je formais moi-même les magasins. Donc, c'était, je te dirais que ça m'a pris 5 ans avant d'avoir un premier salaire. Donc, j'investissais tout le temps dans la compagnie, tout le temps. Quand tu regardes pas avec le recul, tu te dis, je peux pas croire, j'ai fait ça. Mais bon, je voulais vraiment aider les femmes berbères.
Ah ben écoute, je pense que tu as réussi plus que peut-être même tu l'avais imaginé, on pourrait dire ça comme ça. Ton histoire me fait beaucoup penser à celle de Daniel Henkel, porte à porte, un client à la fois qu'on s'en va chercher, puis on retourne pas chez nous le soir tant aussi longtemps qu'on n'a pas au moins 5 ou 6 oui, puis on recommence. Exact. Une journée après l'autre, une semaine après l'autre, puis tranquillement, c'est comme ça que l'entreprise grandit.
Exactement. Ouais. Mmh. Ouais. La même passion que Madame Henkel.
Il y a un autre élément de votre croissance qui est assez intéressant. Tu m'en parlais dans une discussion qu'on a eue ensemble, Mélissa. Je pense que tu as participé à un programme qui était mis de l'avant par certaines instances canadiennes. On était capable de présenter notre projet. Ultimement, on était capable d'avoir des levées de fonds. Mais je pense que ça s'est fait de manière un petit peu différente que c'était supposé être mis en place. Mais tout de même, tu es ressorti de là avec un bon montant d'argent. J'imagine que ça t'a aidé par la suite à bâtir davantage Zora. Peut-être tu peux nous expliquer un moment, ce moment-là, parce que je pense que ça a été assez charnière dans l'histoire de ton entreprise.
Bien sûr, parce que ça fait déjà 2 ans. Donc, j'avais une idée dans ma tête. Là, je voulais un produit X. Donc là, c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, j'ai appelé un palier gouvernement, Investissement Québec. Donc là, Investissement Québec, elle me dit « Oui, mais tu peux appeler un tel. » Fait que là, j'ai appelé le pari. Fait que là, le pari me dit « Oui, mais tu pourrais appeler lequel autre? Le DEC. » Donc là, finalement, Investissement Québec m'ont dit « Ben écoute, Mélissa, je pense qu'on va te rentrer dans un programme où ce qu'on va te donner 3 heures, puis tu vas pouvoir nous parler de tes beaux projets nombreux. » Donc là, il y a eu PME Montréal, Investissement Québec, ma banque, BDC, Paris, le DEC, quel autre? En tout cas, il y était 13 personnes de différents paliers gouvernementaux, fédéral et provincial. Et puis, je leur ai proposé mon projet. En tout cas, moi, ça fait longtemps que j'avais une grande vision. C'était je veux conquérir le monde puis sortir du Canada. C'était vraiment ma passion. Puis, je voulais encore investir en recherche et développement parce que je pense que des produits qui n'existent pas encore sur le marché, mais que je crois qu'ils seraient très populaires. Donc, j'ai pu leur présenter mes idées grandioses, dont l'agrandissement de mon usine. Alors, c'était vraiment... finalement, j'avais un projet de 6 millions.
OK. Wow.
À la fin, là, quand j'ai réalisé que je demandais 6 millions, j'ai pas eu 6 millions, là, je vais être honnête avec toi, mais c'est tout des emprunts. Mais ils m'ont tout dit, bon, ben, on va embarquer dans ton projet. Puis là, j'ai commencé déjà l'agrandissement de mon usine. Donc, elle devrait être terminée, ils m'ont dit, le 15 juillet. Donc, on devrait faire le lancement le 15 août. On a triplé l'usine de production parce que là, si tu veux conquérir le monde, il faut que tes machines y roulent. Donc, l'étape 1, 2, 3 est partie. Puis, en attendant tout ça, que l'usine, nous, on a lancé des perches à l'international. Donc, c'était ça dans mon projet. Mais dans mon projet, je voulais juste deux pays. Mais là, actuellement, il y en a 4 qui ont répondu. Donc là, je m'attendais comme pas à ça, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est long avant qu'on développe des opportunités d'ouvrir des marchés. Fait que je me suis dit, si il y a une opportunité maintenant, ben il faut pas la refuser, il faut sauter là-dedans.
Bien sûr. Puis jusqu'à maintenant, tout avait été autofinancé de ton côté?
Du love money, beaucoup, beaucoup de prêts. Nous, c'est vraiment BDC, ben oui. Vraiment, tu sais, dès le départ, là. Puis le premier qui nous a aidés, c'était mon un ancien propriétaire qui nous avait donné 6 mois de bail gratuitement.
Ah.
Premier financé. Les premiers employés, c'était Emploi Québec avec le programme Prime. Je ne sais pas si tu connais ça, Antoine.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, ils sont encore avec nous. Donc, tu sais, c'est comme ça. Je pense que je suis rendue une professionnelle de toutes les aides gouvernementaux qui existent parce que ça m'aide beaucoup.
Ben oui, il faut l'utiliser. Il faut utiliser tout ce qui est à notre disposition parce que c'est fait pour que l'économie québécoise, canadienne puisse grandir. Et l'économie grandit grâce aux entrepreneurs qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, puis que par la suite, ils peuvent, bien entendu, réinvestir et redonner. Donc, c'est fait pour ça, il faut en profiter. J'aimerais parler d'un sujet avec toi que je trouve assez intéressant également. Tu nous as parlé du fameux porte-à-porte. Mais là, maintenant, on s'entend, un brand comme le tien en 2024, sa stratégie de commercialisation numéro un serait totalement différente. On commencerait avec une présence en ligne, les médias sociaux, on voudrait se faire connaître par la communauté. Tranquillement, peut-être qu'on irait intégrer certains points de vente. Bref, il y aurait plusieurs options qui se présenteraient à nous pour se lancer. Et bien entendu, la présence en ligne se mettrait en place assez rapidement. Vous, de votre côté, comment vous l'avez embrassé tout ça? Parce que j'ai l'impression que vous aviez une bonne compréhension et vous avez toujours une très bonne compréhension de vos points de vente physiques. Ça se déroule bien. Quand le volet de vente en ligne, commercialisation en ligne, médias sociaux s'est prêté à vous, à quel point ça le change un petit peu votre manière de voir les affaires?
C'est une très bonne question, en fait. T'as raison. Tant on est tellement terrain que on s'est fait un peu dépasser par les réseaux sociaux. Puis là, cette année, on est en train d'investir dans une équipe interne pour se reprendre, tu vois, parce que ça m'a fermé une porte aux États-Unis, ça, puis j'étais pas contente.
Ah.
Ouais, exactement. Donc, aux États-Unis, j'ai communiqué avec un client que je rêve de pénétrer depuis des années. Puis elle me dit, ben tant que t'as pas 50 000, ma belle, followers sur Instagram, tu m'appelles pas.
Oh, ouais.
Donc wow. Là, je me fais, hey, boy. On a une belle mission. Et c'est ça. Mais parce que c'est ça, Instagram, TikTok, Facebook, quand tu fais de l'international, c'est la première étape qu'ils regardent. Donc, ça, c'est raison. Puis l'autre affaire, c'est qu'on est tellement terrain que Monet t'oublie que les jeunes sont là aussi. Ils utilisent les crèmes.
Ben
parce
oui.
Ils veulent voir tout qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire derrière ta marque. Puis là, on a commencé, je te dirais, plus à faire ça intensif depuis les 8 derniers mois.
Donc, en gros, peut-être que le terme n'est pas le bon ici, mais ça aurait peut-être été un peu négligé jusqu'à maintenant.
Oui, j'en veux le dire. On le faisait, mais on prenait pas ça trop au sérieux.
On fait une petite pause sur le podcast en cours pour vous parler d'un présentateur du podcast qui se nomme La
J7 Academy. Donc, qu'est-ce que la J7 Academy? C'est un écosystème qui a été bâti pour former la prochaine génération de Direct Response Marketer. Si vous avez besoin d'un acheteur média dans votre organisation, si vous avez besoin de quelqu'un qui va s'occuper du marketing numérique, mais vous ne savez pas où le former, je vous invite à considérer la J7 Academy. La J7 Academy comporte tous les éléments, toutes les campagnes, toute la documentation que l'entreprise J7 Media a été capable de mettre en place au cours des 12 dernières années. Tout leur savoir-faire, toute leur intelligence collective a été mise à l'intérieur d'une plateforme de formation avec énormément de cours qui forment quotidiennement ses propres acheteurs médias. Et depuis 2021 maintenant, la J7 Academy est ouverte à l'entièreté de la population, l'entièreté des acheteurs médias qui désirent se former. Donc, si vous aimeriez former votre équipe en marketing numérique, formez votre équipe en publicité Facebook, formez votre équipe en publicité Google. Je vous invite à aller à la j7academy.com, donc j7academie.com pour en savoir un petit peu plus. Les forfaits commencent à 400$ par mois. Mais si vous dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous obtiendrez votre premier mois à 50% de rabais. Donc, je le répète, j7academy.com pour former votre prochaine génération de Direct Response Marketer. De retour à l'épisode en cours. Ben, écoute, c'est quand même curieux et intéressant de voir ça. Et depuis que vous mettez un petit peu plus de temps, d'argent, d'amour derrière tout ça, est-ce que vous voyez peut-être même des effets croisés que ça fait? Est-ce que peut-être même ça peut vous aider pour vos ventes en physique? Est-ce que tout ça, tu sens qu'il y a une certaine stratégie omnicanale qui se met en place?
Tout à fait. Il y a vraiment des belles stratégies que les réseaux sociaux t'apportent, même sur le terrain, parce que maintenant, tu as de la géolocalisation que tu peux faire. Ça fonctionne. Après ça, tu as d'autres instruments extraordinaires qui nous font sauver du temps, de l'énergie, comme les chatbots qui nous aident à répondre à nos clients sur le web. Tu as plein d'autres outils qui nous facilitent la vie pour l'expansion internationale. Et là, je vois vraiment qu'il y a une opportunité parce que ça répond maintenant. Donc, les gens veulent nous rencontrer. Puis aussi, l'image de marque est très rendue forte sur nos réseaux sociaux, dont Instagram. Là, on a dit, cette année, on va miser sur TikTok de plus en plus. Voilà, Instagram est de plus en plus beau.
Et là, vous faites du 40% de croissance année après année, puis vous vous occupez de vos médias sociaux simplement depuis 9 mois. Il va falloir que tu nous expliques comment vous faites cette croissance-là. Là.
Je pense que les clientes, moi, tout le monde pense que j'ai une secte. Là. Je ne sais pas comment dire ça. Vu que c'est moi qui ai ouvert tous les magasins là, au Québec, tu comprends? Moi, mes 1200 points de vente, je les connais tous. Donc, c'est toutes des amis pratiquement, les chefs cosméticiennes. Donc, ça l'aide vraiment beaucoup. J'ai un lien d'appartenance. On se connaît depuis 20 ans. Je fais tous les salons d'achat. Puis, tu sais, au Québec, c'est pas comme vendre à Toronto, par exemple. T'sais, à Toronto, who cares? J'aime tes produits ou pas. Mais ici, je t'aime toi, la fondatrice ou pas, et c'est ça qui va changer toute la donne, je crois, sur le terrain. Je pense que c'est la grosse différence.
On a une approche un petit peu plus avec le cœur qu'avec la tête, et ça, c'est différent. Tu l'as senti avec les autres provinces, les autres endroits géographiques?
Oui, ils sont contents aussi de me rencontrer, là. Mais c'est vraiment la qualité des produits qui se démarquent. Ouais.
Et l'expansion, un petit peu, comment ça se déroule? Parce que tu nous parlais qu'il y a plusieurs pays qui sont intéressés à voir vos produits, mais vous avez déjà commencé l'expansion géographique. Vous êtes déjà dans plusieurs pays au moment où on se parle. À quel moment c'est venu dans ton cheminement? À quel moment c'est venu dans tes réflexions de te dire, là, si on veut vraiment aller augmenter nos parts de marché, il faut s'intégrer dans d'autres pays? Puis en sous-question, j'aimerais savoir comment tu as fait ton ordre de priorité sur les pays de développement?
C'est une autre bonne question, ça. Bon, au départ, mon ordre de priorité, c'était les États-Unis. Donc, je voulais vraiment percer là. C'est nos voisins. Tout le monde dit que, bon, ça vend sur Amazon, ça vend en don extraordinaire. Donc, j'ai fait ce test-là. Puis malheureusement, ça n'a pas été bon pour moi. Donc, pour l'entreprise...
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
Écoute, les barrières à l'entrée sont énorme.
Ouais,
il demande des sous et des sous. Il faut que tu trouves ton courtier avant de trouver ton distributeur. Le distributeur, une fois que tu l'as trouvé, il te demande si tu as trouvé ton courtier. Tu sais, c'est comme toujours l'œuf et la poule puis l'œuf. Là, ouais. En tout cas, bref. Fait que c'est très difficile à ce niveau-là. Puis là, il y a des opportunités qui, eux autres, se présentent. Puis du jour au lendemain, c'est vraiment facile. Ils sont super motivés. Puis tu te dis, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Ouais. Parce que souvent, tu sais, moi, j'avais pas pensé là que Dubaï, ça allait être un super marché pour Zora Biocosmétique. Mais une fois, le gouvernement canadien nous a envoyé, on a sélectionné 3 entreprises du Canada pour aller faire une mission commerciale à Dubaï. Donc, moi, j'ai été sélectionnée, on est allé, on a rencontré des gens. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une opportunité d'affaires extraordinaire, exponentielle. Mais non seulement ça, c'est que Zora, c'est dans le Coran. L'huile d'argan est dans le Coran. Puis pour eux, tous les produits à base d'huile d'argan, c'est inimaginable. C'est wow. Donc, ça, à l'époque de 20 ans, je m'aurais jamais imaginé que le nom aurait eu une connotation aussi forte que ça, puis pourrait nous ouvrir plus de marché que ça. Donc, c'est vraiment... tu sais, il y en a pas... En fait, ceux et celles qui se font des plans d'affaires puis se disent, bon, moi, cette année, je fonce aux États-Unis, je m'en vais au Mexique, je vais au Japon. Ben bravo, chapeau. Moi, ça marche jamais comme ça. Donc, je peux même faire des plans, mais arrive tout le temps des opportunités qui me font déraper puis qui me disent, ben là, ma belle, c'est pour là que tu t'en vas.
Wow.
Mais parle-nous des anecdotes un petit peu de l'expansion internationale. Tu nous parles de Dubaï. Comment ça se déroule dans les différents pays? À quel point tu as senti que réussir dans un pays allait être différent que réussir au Canada et le chemin à prendre allait être différent? Tu nous parles des États-Unis qui ont été complexes, certes, mais j'imagine que d'autres endroits également que ça doit être différent, qu'il y a un chemin à prendre qui n'est pas nécessairement celui que tu avais en tête. Peut-être que tu as des anecdotes pour nous.
Ben, j'ai plein d'anecdotes là, parce qu'en 20 ans, on a vendu au Liban, en Turquie, en Algérie. Donc, c'est vraiment, j'ai appris parce que tu sais, j'ai pas d'amis, moi, dans l'industrie. Donc, j'ai toujours appris de mes erreurs. Donc, plus que je fais d'erreurs, plus que j'apprends. Donc, je les ai pratiquement toutes faites. Un jour, je vais sûrement sortir mon livre, Les erreurs à ne pas faire. Mais c'est comme ça hein, qu'on grandit et qu'on comprend des affaires. Mais pour des anecdotes, j'en ai une bonne. Donc, on a vendu en Algérie à un distributeur. Mmh. Donc, le distributeur, il était super intéressé. Il nous vend pendant 6 mois. Après 6 mois, plus de nouvelles du distributeur. Il a lancé son graphiste me contacte pour disant, madame, je suis vraiment désolée, mais mon patron m'a demandé de copier votre ligne, votre logo, votre slogan, votre marque. Puis j'ai fait, quoi? Là, j'appelle mon avocat. L'avocate a dit, bon, Mélissa, ça va te coûter des milliers de dollars. Est-ce que c'est vraiment un pays où tu as l'intention de continuer de faire affaire? J'ai fait, oh, boy, OK. Donc, on arrêtait de faire affaire avec l'Algérie, mais à ce jour, la marque continue encore. Donc, on a changé un peu notre packaging après. Donc, on continue encore de les suivre sur les réseaux sociaux, mais on a tout changé notre packaging puis on a tout restimulé notre logo, si tu veux. Pour être sûr et certain qu'on ne se fasse plus confondre avec cette marque-là. On a vendu aussi Turquie. Donc, en Turquie, ça a vraiment bien cartonné, je vous dirais, pendant 5 ans. On faisait des ventes. Quand je faisais une tournée là-bas, je vendais environ 500 000 en une semaine, à moi toute seule, en parlant pas turc. Parce que là-bas, ça parle pas français ni anglais, ça parle que turc. Et puis, juste human to human, l'humain à l'humain, avec les yeux, puis en visitant des docteurs et tout ça. Puis j'ai vraiment adoré ça. Mais là, le premier ministre Erdogan a pris possession du pays. Donc, il a augmenté les taux d'importation à 78%. Donc, on a dû arrêter de distribuer en Turquie. Autre histoire, le Liban, ben, la guerre a débuté. Donc, ça, on apprend. Quand tu fais de l'exportation, tu te dis toujours, ça va être facile, mais tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est toujours incertain. Il faut que tu prennes tes précautions parce qu'on sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. Mais en même temps, bon, c'est le fun parce que tu rencontres des gens extraordinaires, t'apprends. Puis un jour, je veux retourner en Turquie. C'est sûr, parce que moi, les Turcs, je les aime d'amour. Puis c'était tellement un beau pays chaleureux. Puis c'était quelque chose. C'est vraiment spécial. Ouais.
J'imagine. Et bon, peut-être un autre point intéressant qui vaudrait la peine d'être discuté, c'est tout l'engagement un peu que tu as fait avec les femmes berbères. Je le disais en introduction, tu donnes de l'emploi directement, littéralement, à plusieurs milliers de femmes berbères au Maroc. C'est un impact fondamental pour la région. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Et ça a grandement évolué à travers les années. Comment tout ça se met en place au quotidien et pour quelle raison c'est autant important de continuer à faire cette approche-là pour toi aujourd'hui? Parce que, soyons clairs pour notre audience aujourd'hui, c'est pas la meilleure décision économique pour toi de faire ça. Il y aurait d'autres approches beaucoup plus simples que tu pourrais faire beaucoup plus d'argent. Mais ça fait 20 ans que tu dis non.
Ben oui, ça fait 20 ans que je dis non. Encore, c'est sûr que c'est très dispendieux de faire affaire directement avec des coopératives. Mais en même temps, je me dis, bon, demain matin, là, que je sauve, je te dis n'importe quoi, là, 50 $ par kilo, ça va-tu changer quelque chose dans ma vie? Je pense pas, mais ça va-tu changer quelque chose dans leur vie à elles? Oui. Donc, on continue de faire ça. C'est sûr qu'on pourrait aller avec des distributeurs qui te vendent de l'huile d'argan ou qui vont pas de commerce équitable puis que le coût de bénéfice serait moins là. Mais tu sais, Zora est née dans l'espoir d'aider des femmes, dans l'espoir que les femmes puissent se scolariser puis avoir une vie puis être autonomes. Ben, c'est vraiment ça notre mission en arrière. Puis là, on a même parti une fondation. Tu sais, quand je te dis que c'est pas le but de faire de l'argent, c'était vraiment d'aider les femmes à s'autonomiser. Ben, la fondation, on a dit 1%, mais je te dirais que ma comptable, elle m'a dit, mais ça, c'est plus 25% que vous donnez par année. Mais j'ai dit, garde, on donne ce qu'on donne, là, puis voilà. On est quand même profitant. Donc ça, c'est les choses à noter. Puis on continue d'aider directement d'autres coopératives à travers le monde, parce que moi, je pense que si on leur donne accès, voire plus de sous pour que eux puissent changer leur mode de vie ou réaliser leurs propres rêves, ben tant mieux, parce que moi, ils m'ont fait réaliser une belle entreprise. J'aide des personnes qui travaillent chez moi depuis 15 ans, qui ont envoyé tous leurs enfants à l'université. Fait que c'est ma façon à moi de redonner à la communauté, mais c'est sûr que c'est derrière la mission du Zora Biocosmétique. Là, quand les gens achètent les produits, ils savent pas tout ça. On l'a pas assez mis de l'avant non plus. Ça, c'est un autre de mes erreurs avec le passé. Mais là, cette année, on veut vraiment le dire. Qu'est-ce qu'on fait en arrière de tout ça? L'impact qu'on a auprès des femmes. Puis moi, j'ai vu une femme, là, juste en passant à Antoine, elle savait pas lire, elle savait pas écrire. Puis ça va faire 20 ans que je la connais. Puis maintenant, elle est rendue chef comptable des trois villages.
Wow. Et
ses enfants, les petites filles, vont à l'école. Puis là, ils m'ont tous dit qu'elle allait apprendre le français parce qu'il y en a une d'entre elles, elle m'a dit, Mélissa, moi, je veux être comme toi plus tard, je veux être entrepreneur.
Ça, c'est tout ça a été financé, tout ça a été financé un petit peu par les importations que tu faisais, exactement.
Exactement. C'est beau. Ça me touche. Puis je me dis, bon, ben au moins, si on en sauve une coupe, tant mieux.
Bien sûr. Ben, une coupe, c'est plusieurs milliers là maintenant, donc faut pas le négliger tout ça.
Quand même, oui.
Il y a un autre point, Mélissa, que j'aimerais discuter avec toi, c'est la dynamique entre associés. Donc, je pense que pendant un bon bout de temps, tu avais un partenaire avec toi et tu as racheté complètement les parts de ton partenaire il y a quelques années de cela maintenant. Il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter aujourd'hui qui vont être dans une dynamique similaire, c'est-à-dire on est dans un partenariat qui pouvait bien aller dans le passé, qui va un peu moins bien maintenant. Et on se pose des questions sur ce qu'on veut faire ou même on est littéralement dans le processus de faire un rachat d'actions. Qu'est-ce que l'expérience t'a appris comme leçon et qu'est-ce que tu ferais différemment dans le futur si tu avais à retourner dans cette situation-là?
Ben en fait, faut avoir la même vision parce que aussitôt qu'on n'a plus la même vision de l'entreprise, ça ne fonctionne plus. Faut vraiment qu'on... En fait, je ne changerais rien. Je trouve que ce qu'on a fait, ça s'est fait vite. Pour faire ça vite, ça c'est sûr et certain, parce que c'est quand même une déchirure, là, veux, veux pas, là, d'être partenaire pendant X années, puis après ça, de tomber toute seule. Donc, plus vite vous pouvez le faire, mieux ça va être, puis voilà, puis de laisser l'entreprise à celui ou celle qui a la meilleure vision pour le futur.
Ça, c'était clair pour vous deux?
Oui, c'était clair pour nous deux. c'était pas mal moins Zora.
Ouais. Ça faisait plus de sens, on va dire ça comme ça, ouais, je comprends. Exact. Qu'est-ce qui vous attend dans les 12, 24, 36 prochains mois?
Il nous attend, tu vois, septembre, j'osais même pas y penser là hier, parce que début septembre, Japon, revient salon d'achat à Toronto pour Shoppers Drug Mart, repart au Maroc, revient salon d'achat CHFA à Toronto, repart à Dubaï et revient pour un lancement de télé à TVA. Donc, je pense pas à 18 mois, Antoine. Je suis rendue à court terme. Puis j'essaie d'être zen, de continuer de m'entraîner, de bien manger, et travailler en vélo, aller-retour, tu sais, puis de voir mes amis, puis d'avoir une vie équilibrée en tout ça. Parce que qu'est-ce qui s'en vient? Bien, de l'expansion géographique, on devrait ouvrir d'ici 18 mois, 6 pays. Donc, c'est quand même quelque chose.
Wow.
Donc là, on est sur le mode embauche. On passe des entrevues, je te dirais, c'est phénoménal là, ces temps-ci là, pour monter les...
Vous êtes combien maintenant?
On est 28, mais
28.
Mais c'est le fun ça, parce que j'ai un plus gros chiffre d'affaires avant la pandémie, OK? Puis avant la pandémie, j'avais 45 employés.
Ouais.
Donc ça, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, là, il y a des façons de faire que c'est vraiment... La pandémie nous a amené plein de belles affaires pour en profiter maintenant puis continuer de survoler là-dessus. Mais c'est ça, on a 28 et le chiffre d'affaires est plus gros qu'avant la pandémie.
C'est moins d'employés.
Ben, moins d'employés. Mais oui, on a changé notre façon de faire. Donc, on est tous maintenant sur le même niveau. Donc, il n'y a plus de patron, directeur, le secrétaire. Donc, le directeur va faire la rédaction, va participer à... C'est ça. Fait qu'on a changé notre façon de faire pour être tous au même niveau, un peu comme un cercle, si tu veux.
Bien sûr.
Et puis, s'il faut aller faire des boîtes, ben on va faire des boîtes. Toute l'équipe travaille. Puis, vraiment, c'est stimulant. Puis, ça fait pas juste faire une affaire, mais on touche à tous, à toute l'entreprise au complet. Et puis, ça va mieux. Les gens sont plus épanouis en plus.
Intéressant. Bon, petite question personnelle maintenant que j'aimerais regarder avec toi. On a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent sur le podcast, qui nous parlent des lectures qu'ils ont fait ou des podcasts qu'ils écoutent. Est-ce qu'il y a certains livres, certains podcasts que tu as écoutés, qui ont marqué ton esprit, que tu peux partager avec notre audience?
Bien sûr, il y a Tonino Benacquist qui est mon Valhalla. Lui, j'adore lire ça, tous ses livres, la saga. J'ai jamais battu ce livre à ce jour. Est-ce que tu l'as déjà lu?
Je ne l'ai pas lu, mais je vais le mettre dans mes livres.
C'est vraiment extraordinaire. Et puis, il y a tous ces livres qui sont vraiment fabuleux, mais celui-là, tu n'es pas capable de t'empêcher de le lire. Il y a aussi mon ami Mylène Paquette qui a traversé l'océan Atlantique à la rame. J'aime ça encourager des femmes entrepreneurs aussi quand ils sortent des livres. J'aime ça lire les histoires vraies des gens, de la femme. Parce que des fois, on a besoin de modèles pour se comparer, pour se consoler. Puis,
Sûr. Podcast, est-ce qu'il y en a quelques-uns?
Non, pas encore. Il faudrait que je me force.
Pas encore,
plus. je vais le prendre.
Ouais, bon, parfait. Puis tu nous dis que tu t'entraînais un peu. À quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail?
Vélo le matin pour aller travailler. Oh. Travail, retourne en vélo, va m'entraîner. Après ça, j'essaie de voir des amis. Voilà. Pour avoir une vie assez équilibrée. Chose que je ne faisais pas avant, mais que depuis 3 ans, je fais.
Ça aide un peu. Fantastique.
Ça aide beaucoup, beaucoup.
Mélissa, écoute, félicitations pour cette belle organisation. Félicitations pour votre croissance. On va suivre ça de près. Une belle entreprise québécoise qui s'installe dans un paquet de pays. C'est toujours excitant. Si on veut en savoir plus sur ce que vous faites, meilleur endroit pour vous rejoindre?
Sur les réseaux sociaux maintenant.
Oui.
Oui, exactement. Sur Zora.ca, puis nos sites Instagram, Facebook.
Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Mélissa Harvey, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Bien heureux d'avoir pu en savoir un petit peu plus sur Belle Entreprise. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.